Jésus de Nazareth, ce vivant qui nous rend si humains. Voici une conférence du père Raphaël Buisse, prêtre du diocèse de Lille, membre de la fraternité diocésaine des Parvis. Le père Raphaël Buisse était invité par les paroisses Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Marie du hameau de Pau. Cette conférence a été enregistrée à l'abbaye de Belloc Habitat Humanisme le 9 avril 2025. Jésus de Nazareth, ce vivant qui nous rend si humains, le père Raphaël Buisse.
Voilà, je suis un pur produit flamand, vous allez peut-être reconnaître mon accent un peu, de la Wallonie. Pas très loin de chez moi, j'habite à Lille, j'habite dans le centre-ville de Lille, et quand on s'en va vers une petite ville qui s'appelle Armentières, quand on s'en va de Lille à Armentières, on passe dans un petit village, tout petit village qui s'appelle Wemacar. En fait, c'est un village qui est construit autour d'une grande route, une nationale, voilà, et puis les voitures passent, beaucoup de monde. Et il y a quelques commerces. Et puis, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a quelques semaines, j'allais à Armentières. Et en arrivant à l'entrée du village, il y avait un grand panneau jaune, fluorescent, sur lequel il était écrit « Bonne nouvelle ». Et moi, je suis un peu naïf, je me suis dit « Ah, ça, c'est sûrement la paroisse. C'est sûrement la paroisse qui a voulu faire un signe pour dire que c'est le temps du carême et qu'il faut se préparer, patati patata. » Et j'ai continué ma route. Et puis, je suis arrivé quelques dizaines de mètres plus loin sur un autre panneau, tout aussi jaune et tout aussi fluorescent, sur lequel il était écrit « Pour 5 tranches de jambon achetées, 3 gratuites. » C'est quelque chose, hein. Même à la foire au jambon de Bayonne qui commence demain, on n'a pas un tarif comme ça, hein. Je suis sûr. C'était ça la bonne nouvelle. Alors on rit, hein, mais plus sérieusement, la bonne nouvelle c'est quoi? Qu'est-ce qui est l'important de notre vie? Parce que je ne sais pas, enfin moi je ne vous connais pas, mais je trouve que la vie c'est quand même rude. Et il ne faudrait pas qu'on joue aux bisounours. Je pense à des rencontres vécues ces derniers temps. Je pense à ce jeune couple qui est venu à un week-end de préparation au mariage que j'animais avec une équipe et qui a annoncé qu'il avait une tumeur au cerveau. Quand on se prépare au mariage, c'est rude. Hein, c'est rude. Je pense aussi à des jeunes gens aussi qui s'inquiètent pour le devenir de notre planète. Et moi, j'entends de plus en plus dire, des jeunes dire, nous, on ne veut pas d'enfants, quoi. On ne voit pas très bien ce qu'on va leur laisser, et on ne veut pas d'enfants. Bon. Je pense aussi à ce jeune couple qui, il y a quelques jours, a porté en terre un petit bébé, mort à cause d'une maltraitance. Je pense aussi à une personne âgée que je vais visiter quelques fois, qui est partagée entre euphorie et désolation. Et qui s'enfonce dans une solitude qui paraît sans fond, quoi. Alors elle s'accroche aux branches qu'elle peut trouver pour garder la tête hors de l'eau et pour pas mourir avant l'heure, quoi. Bon, rassurez-vous, on m'a pas invité pour que je vous sape le moral avec des histoires comme ça. C'est pas du tout ça que je... Mais il faut quand même poser une chose sans quoi on serait pas très juste. Je trouve que la vie, c'est dur. C'est dur pour des jeunes gens de travailler, c'est dur d'aimer, c'est dur de fonder une famille, c'est dur d'entraîner d'autres, c'est dur de grandir, c'est dur de vieillir aussi. Bon, il ne faut pas qu'on fasse semblant parce que la vie, elle est comme ça. Voilà, donc je vous disais, la vie, elle est quand même un peu dure et il ne faudrait pas, dans une vie dure comme celle-là, qu'on se laisse un peu, permettez-moi de dire les choses crûment, qu'on se laisse avoir par la religion. Dans un monde qui est dur. Et surtout pas qu'on se laisse avoir par une religion qui voudrait être consolatrice et qui viendrait nous apporter des réponses à nos questions et qui viendrait nous consoler à bon compte sur la dureté de la vie. Parce qu'il y a quelquefois une façon de vivre la foi comme quelque chose d'anesthésiant, bon, comme quelque chose qui calme, comme quelque chose qui quelquefois nous éteint ou nous asservit. Quelquefois aussi, qui nous a servi à ceux et celles qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir dominer ou nous dire ce que nous devons vivre ou ce que nous devons croire. Enfin voilà. Donc la vie, elle est dure et la religion, comme on dit, c'est pas le remède miracle, quoi. La vie, elle est dure avec ces éléments que je viens de vous citer, ces quelques exemples, enfin ces quelques rencontres qui me marquent. Mais quand je regarde ma propre vie, et je pense que ça doit être un petit peu comme pour vous aussi, enfin vous me rassurerez en tout cas, c'est que j'ai le sentiment que notre vie, très souvent, elle est déroutée. On pensait qu'on irait par là. Alors on est parti par là. Et puis il se fait un moment, pour telle ou telle raison, que la vie, elle nous emmène un peu ailleurs. Alors on dit, c'est pas grave, on va s'installer ailleurs. Et puis voilà qu'une nouvelle fois, on est entraîné un peu plus loin et autrement. Et en fait, dans notre vie, en tout cas dans ma vie, les choses se sont jamais passées exactement comme je l'avais imaginé, quoi. Alors c'est quoi la vie? Dans une vie qui n'a rien de permanent, de durable, dans une vie qui est quand même chahutée, c'est quoi être un homme ou une femme, quoi? Comment vivre? Comment être plus humain? Je pense à un psaume, là, le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, quoi? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu penses à lui, dit le psalmiste. Et puis je pense à un autre psaume aussi. Qui nous fera voir le bonheur? Sacrée question, hein? Et c'est une question qui vient de loin, parce qu'elle a été écrite 1000 ans avant Jésus, quoi. Qui nous fera voir le bonheur? Qui? Et moi, c'est une question que je me pose beaucoup. C'est une question que je me pose pour ceux et celles que la vie me fait rencontrer. Qui leur fera voir le bonheur? À ce couple-là, qui est touché par la maladie, qui leur fera voir le bonheur? Cette parole qu'un psalmiste a rédigé il y a 3000 ans, c'est une parole qui a rien perdu de sa modernité. Qui nous fera voir le bonheur? Il y a quelque chose en nous qui dit que le bonheur, c'est pas de vivre dominé, c'est pas de vivre sous l'oppression, c'est pas de vivre dans une domination. On sent bien aussi que être heureux, que vivre, que réussir sa vie, ça se joue pas dans une espèce d'obéissance stricte à quelques règles sociales ou quelques règles morales ou religieuses. On pressent bien que le bonheur et que la vie réussie, ça a quelque chose à voir avec le chemin. Et moi, j'aime bien me souvenir de cette traduction que André Chouraqui faisait des béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux les artisans de paix. Chouraqui traduisait ça par en marche les pauvres, en marche les assoiffés de justice, en marche. Et j'ai l'impression que notre vie, que le vrai de notre vie, c'est dans le mouvement que ça se passe. Et que le bonheur n'est pas un chemin, n'est pas un but, pardon, que le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais un chemin à prendre. J'ai l'impression que notre humanité, c'est un chemin à prendre aussi. On devient homme ou femme un peu à la fois, et c'est la vie qui nous façonne, quoi. Madeleine Delbrel, vous la connaissez un peu, hein, oui. Oui, hein. Madeleine, donc, elle a vécu au siècle dernier. Elle est morte en 1964. Elle a vécu une vie de nomade tout le temps. Tout le temps. Elle est morte à 60 ans, c'était jeune. Mais tout le temps, elle a été déroutée, cette femme. Elle était petite croyante pieuse, et puis elle a été chahutée par la violence de la Première Guerre mondiale, et puis elle a été chahutée par le départ de son amoureux, et elle a été chahutée par ce qu'elle a découvert de l'église quand elle est arrivée à Ivry-sur-Seine, d'une église qui avait peur du monde communiste. Enfin, tout le temps, elle a été chahutée, cette femme. Et un jour, elle a écrit ceci, elle dit « Partez sans carte de route. Sachez que la vie, elle est sur le chemin, elle n'est pas au terme. Alors n'essayez pas des recettes originales, mais laissez-vous trouver dans la pauvreté d'une vie banale. » Elle dit « Ne cherchez pas les beaux voyages imaginaires, que les variétés du royaume de Dieu vous suffisent et vous réjouissent. Alors qui va nous apprendre à être humain? Qui va nous apprendre à ne pas passer à côté de notre vie? Qui va nous apprendre à consentir à toutes les déroutes de notre vie? Eh bien, j'ai l'impression que dans l'Évangile, il y a quelques pistes. Moi, je suis touché par une parole de Jésus qui résonne pour moi depuis longtemps. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Pas une petite vie pas de la survivance, pas une petite vie de 4 sous, mais la vie en abondance. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Vous savez, quelquefois sur les chantiers, on voit, quand il y a un chantier de construction, on voit un panneau, cet immeuble est construit selon les normes HQE. Hein, c'est haute qualité environnementale. Bon, eh ben, j'ai l'impression que l'Évangile nous propose de construire notre vie sur une norme HQE, c'est une haute qualité d'existence. Je crois vraiment que le Christ il vient nous inviter à construire avec cette norme-là qu'il vient nous proposer. J'ai fait une expérience un peu troublante il y a quelques années. J'avais été dans mon diocèse vicaire épiscopal chargé de la pastorale des jeunes et de l'enseignement, et donc j'avais beaucoup travaillé. Enfin, puis j'aime bien travailler, donc je m'étais donné sans compter. Et puis au bout de 15 ans, j'ai senti que c'était bien aussi d'aller vivre quelque chose d'autre, et j'ai proposé à mon évêque, enfin j'ai demandé l'autorisation. J'ai demandé à mon évêque si je pouvais dégager pendant une année et aller goûter de l'intérieur quelque chose de la vie monastique, parce que j'ai toujours été assez touché par la vie monastique. Il y a près de chez nous une abbaye qui s'appelle l'abbaye du Mont-des-Cats. J'ai toujours été très touché par ça m'a toujours intrigué, ces hommes et ces femmes qui choisissent de vivre ensemble un peu à l'écart. Et mon évêque m'a dit oui, et donc j'ai été passer une année dans un petit monastère en Wallonie, près de Namur, entre Namur et Bruxelles, le monastère de Clairlande. Et j'avais choisi ce petit monastère parce que eux, ils faisaient pas de fromage, mais ils faisaient pas de bière non plus. Pourtant, ce sont des Belges, hein, ils faisaient pas de bière ni de fromage, mais ils avaient une vie professionnelle. Il y en a un qui était chauffeur de taxi, il y en a un qui était prof, il y en a un qui était médecin, il y en a un qui était infirmier, il y en a un qui était. Bon, voilà. Et ça m'avait intrigué et je m'étais dit, bah, je vais aller passer une année là-bas. Et donc, je suis parti une année là-bas avec peut-être la perspective d'y rester. Je me disais, bah, c'est peut-être une étape pour ma vie. Et puis, je suis parti là un peu naïf avec cette idée que. Après 15 ans de bons et loyaux services dans mon diocèse comme vicaire épiscopal, là, le Seigneur, il me devait quand même quelque chose. Hein, et je suis vraiment parti là un peu naïf avec cette idée que puisque j'étais dans un monastère, naïf, hein, vraiment, puisque j'étais dans un monastère, tous les matins, je me réveillerais avec la parole de Dieu qui me ferait du bien au cœur. Et que tous les soirs, je m'endormirai dans les bras du Seigneur. Et vraiment, j'étais un peu naïf quand même. Hein. Et pendant une année, il ne s'est rien passé. Je me suis ennuyé. Je ne vais pas dire à mourir, mais vraiment, je me suis ennuyé. Il ne se passait rien. Vraiment. J'étais heureux. Hein. Les moines m'avaient vraiment bien accueilli. Ils m'avaient confié leur petite hôtellerie, tout ça. Bon, j'étais heureux. Ils m'ont vraiment reçu comme un frère. Mais pendant une année, oh, rien. C'est rude, hein? Et ça m'a même interrogé, ça m'a dit, mais est-ce que tout ça, c'est pas des carabistouilles, quoi? Vraiment, hein, vraiment, ça a été jusque-là. Est-ce que ça tient, quoi? Est-ce que je ne me suis pas fourvoyé depuis des années, quoi? Quand on a donné toute sa vie, comme on dit, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire donner toute sa vie, hein, mais on dit ça, hein, et qu'on est pris dans ce vertige-là, ouh, c'est quelque chose. Et alors je me souviens parce que juste à côté du monastère de Clairlande, il y avait un petit bois près de Louvain-la-Neuve qui s'appelle le bois des rêves. C'est joli, hein? Et alors j'allais me promener quelquefois dans le bois des rêves et je criais, mais où es-tu? Où es-tu? Mais où es-tu? Et à chaque fois que je posais cette question-là, il y avait comme un écho qui revenait, c'était es-tu? Où es-tu? Es-tu? Et je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose que le Seigneur essaie de me dire, quoi. Raphaël, tu me cherches, mais est-ce que tu acceptes de te trouver toi-même? Est-ce que tu acceptes d'être vraiment un homme, quoi? Et alors, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, c'est que je me suis dit, mais puisque Dieu ne parle pas beaucoup, alors il faut peut-être que je regarde plutôt du côté de l'homme. Et je me suis remis à lire l'Évangile. Et j'ai découvert dans l'Évangile un bel homme. Et le regard en lui, j'ai l'impression d'avoir reçu de lui dans ma déroute, quelques clés pour construire ma propre vie. Alors Jésus, je le connaissais déjà un peu, hein, on s'était rencontrés déjà. Je l'avais rencontré quand j'avais 10, non, mais pas 17 ans, j'avais 14, 15 ans. 14, 15 ans, j'étais dans un collège privé, c'était des profs, des prêtres qui étaient les enseignants. Et il y en avait un qu'on appelait Bidas. Ça en dit long, hein? Un prêtre qu'on appelle Bidas. Et alors, je me souviens, j'étais en quatrième, et ça, c'est lui qui faisait le cours le cours de religion, comme on disait. Bon. Et sa seule méthode à lui, c'était de nous faire apprendre par cœur l'Évangile. Vraiment, sa pédagogie, c'était ça, apprendre par cœur. Et je me souviens que tous les mercredis matins, on avait cours à 8 heures, et qu'il appelait quelqu'un au hasard dans la classe qui devait aller au tableau. Et il fallait que celui-là récite le chapitre qu'on avait dû apprendre par cœur. Et je me souviens de m'être souvent mis comme ça, parce qu'on pense toujours que si on fait ça, on n'est pas vu. C'est comme les autruches. Bon. Et de temps en temps, il disait Buise au tableau, et Buise, il allait au tableau, et il devait réciter un morceau d'évangile. J'ai détesté cet homme. Parce que j'étais un garçon très timide quand j'étais petit. J'ai détesté cet homme, j'en étais malade. Bon. Et puis c'est des années après, quand je suis retourné, quand j'ai vécu mon expérience au monastère de Clairement, que je me suis remis à lire l'évangile et je me suis aperçu que cet évangile, il était inscrit en moi, quoi. Il y avait quelque chose qui s'était posé. Je m'apercevais que quand je lisais l'évangile, il y a des morceaux qui revenaient comme ça. Et alors, quand je lis l'évangile, ben je m'aperçois qu'il y a chez Jésus comme quatre postures, comme quatre façons d'être, comme quatre façons de se tenir dans la vie qui font de lui quelqu'un d'infiniment humain. Et je découvre quand je lis l'évangile que quand il est pleinement humain, alors il permet à d'autres de devenir plus humains aussi. Et alors, tout ça m'a fait dire que dans cette vie un peu déroutée, sans cesse déroutée, là où on est mené d'un côté et de l'autre, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Ben, peut-être simplement apprendre à devenir plus humain, quoi. J'ai l'impression que dans notre monde aujourd'hui, c'est une vraie question. Comment nous pourrions devenir plus humains? La question de Dieu, c'est bien, hein, mais... J'ai écrit dans mon petit livre Autrement Dieu que Dieu n'était plus la première question de mes matins. Et quand mon évêque il a lu ça, j'ai vu que sa mitre elle commençait à trembler. Il s'est dit, mais Raphaël, il a perdu la foi. Non, j'ai pas perdu la foi du tout. Mais je ne cherche plus d'abord Dieu, je cherche d'abord à contempler l'homme. Et contemplant l'homme, je découvre quelque chose de Dieu qui se joue là. Et alors, je reviens à ces quatre postures de Jésus parce qu'elles sont vraiment pour moi comme comme un signe, comme une invitation, comme un projet pour ma vie. Et j'avais envie de vous partager un peu ça. Pour devenir plus humain, peut-être nous laisser entraîner par Jésus de Nazareth. Au tout début de Jésus, bah, il y a d'abord un enfant qui naît, quelque part en Galilée. Il grandit dans une famille, au milieu des siens. Est-ce qu'il a eu des frères ou des sœurs? Ben, l'Évangile en parle, mais tout de suite, on nous dit non, 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 non. Bon. Ce sont que des cousins. Bon. C'est pas la question qui passionne ma vie beaucoup, ça. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il grandit dans un environnement juif. Il célèbre le Shabbat, il connaît les psaumes, il apprend la Torah, il baigne un peu dans ce milieu-là. Il n'a pas la conscience d'être le Verbe de Dieu, d'être Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Ça, il ne sait pas, ça. Il grandit. Son métier d'homme, c'est d'être un homme, quoi. Voilà, il grandit. Il n'a sûrement pas été parfait. Bon, en tout cas, voilà, il grandit. Il mène une vie de gamin ordinaire. De son adolescence, on ne sait rien, si ce n'est qu'on nous a raconté des choses après. Quand des années après Pâques, on a voulu écrire sur lui, on s'est rappelé qu'il avait un jour été au temple avec. Bon, d'accord, mais ce n'est pas ça le plus important. En tout cas, il grandit dans un environnement juif. Et puis un jour, il quitte la maison. Et il y a quelque chose de très beau à imaginer, ce Jésus qui quitte son environnement un peu stable. Parce qu'à partir de là, ça va être la déroute complète pour lui. Et une déroute qu'on connaît aussi, quoi. Alors il s'en va rejoindre sur les bords du Jourdain un certain Jean-Baptiste, dont on fera un cousin, peut-être. En tout cas, il va rejoindre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est qui? C'est une belle figure, Jean-Baptiste, parce qu'elle a des choses à nous dire aussi pour notre humanité. Jean-Baptiste, quand je regarde l'évangile, j'ai l'impression que Jean-Baptiste, c'est d'abord un homme qui est déçu et qui est un homme un peu révolté. Vous savez, Jean-Baptiste, il naît du côté de Jérusalem. Enfin, il grandit du côté de Jérusalem. Là, son père, il travaille au temple. La situation à l'époque, c'est que la terre, elle est de nouveau occupée par les Romains. Bon. Et Jean-Baptiste, il se dit, mais c'est ça, quoi. C'est ça, la vie. Moi, je suis un fils d'Israël, un fils du peuple d'Israël. Et on a quitté l'Égypte. Nos pères, ils ont quitté l'Égypte pendant des années. Et ils ont été envoyés en exil. Et puis, voilà. Et tout ça pour ça, quoi. C'est ça, la terre promise? C'est de nous retrouver de nouveau occupés par un peuple. C'est ça, tout ça pour ça. Et donc il est révolté par ça, Jean-Baptiste. Parce qu'il sait bien que Dieu, c'est un Dieu qui aime la liberté. Et puis il voit aussi que dans son peuple, là, parmi ses compagnons de religieux, là, il y a des gens qui vont fricoter un peu avec l'occupant romain. Et ça le révolte. Et puis qu'est-ce qu'il voit Jean-Baptiste quand il est à Jérusalem aussi? Ben, il voit des choses pas belles, quoi. Il voit que la religion est pas top quand même, hein. Il voit qu'il y a des scribes, des pharisiens qui jouent un peu avec la loi et qui font peser sur les autres des fardeaux que eux-mêmes ne sont pas capables de porter. Et ça le scandalise. Jésus aussi, ça sera scandalisé par ça. Alors qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste? Il est révolté. Il est déçu et il fait quelque chose de très beau. Il décide de sortir de la terre promise. Et il passe le Jourdain et il s'installe sur le bord du Jourdain en Transjordanie. Autrement dit, il quitte la terre promise pour retourner à la porte de la terre promise. Il choisit de retourner là où tout a commencé. Mais ça, c'est très intéressant, hein. Quand quelquefois dans notre vie, on n'y voit plus très clair. Ça arrive, enfin, peut-être pas à vous, mais moi oui, hein. Quand dans notre vie on n'y voit plus très clair, retourner à ce qui nous a mis en route, c'est souvent une clé. Alors voilà, Jean-Baptiste, il s'installe sur les bords du Jourdain pour bien montrer qu'il y a une espèce de contestation chez lui. Il s'habille avec des peaux de chamois, il mange des sauterelles. Bon. Il est à la frontière. Et il attend. Et alors des gens viennent à lui. Et ça, c'est très beau parce que il n'est pas le seul à pas se retrouver bien à Jérusalem. Il y a un tas de gens de Jérusalem et de Judée qui eux aussi étouffent un peu dans cette situation politique et religieuse. Ils aspirent à autre chose. Ça parle un peu de notre vie, ça aussi, hein, d'aspirer quelquefois à autre chose. Et alors ces gens-là, ils ont entendu parler du Baptiste et ils s'en vont. À sa rencontre, et alors on dit dans l'évangile, mais on en rajoute un peu, tout Jérusalem et toute la Judée venaient à lui. Bon, on est en Orient, hein, on en rajoute un peu. En tout cas, il y a des gens, des hommes, des femmes de Jérusalem et de la Judée qui vont à la rencontre du Baptiste. Et il faut marcher pour aller à sa rencontre. Ils marchent pendant des heures et des heures, ils arrivent sur le bord du Jourdain. Quand ils arrivent sur le bord du Jourdain, ils sont fatigués, ils sont éreintés, ils ont chaud, ils puent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils plongent. Alors c'est ma lecture, hein. Prenez-en et laissez-en aussi, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils arrivent sur le bord du Jourdain et ils plongent. Et quand ils plongent dans l'eau fraîche du Jourdain, il y a quelque chose qui se passe en eux, quoi. C'est un rafraîchissement, bien sûr, mais c'est plus qu'un rafraîchissement du corps. Il y a quelque chose de leur être profond qui est touché aussi, un peu comme nous quand on a fait une longue marche en montagne et qu'on trouve un lac et qu'on peut se jeter dans le lac comme ça, ou dans une piscine, ou quand on boit une bonne bière fraîche. La première gorgée d'une bière fraîche. après une marche, mon Dieu que c'est bon. Et c'est pas simplement rafraîchissant, ça fait du bien à tout l'être, quoi. Et j'ai l'impression que ces gens-là, ils goûtent quand ils sont dans l'eau du Jourdain qu'il y a quelque chose de, il y a un autrement de la vie qui est possible. La vie, c'est pas d'être brûlé par l'occupation romaine. La vie, c'est pas d'être brûlé par les observances religieuses. La vie, c'est de vivre. Et Jean-Baptiste est là et il dit, mais, alors je traduis, hein, mais enfin, j'interprète même. Jean-Baptiste dit, ben, vous voyez, c'est changer de vie, quoi. Vous pouvez changer de vie. Restez pas ici, rentrez chez vous, mais rentrez pas chez vous comme avant, quoi. Changez de vie, hein. Convertissez-vous, changez de vie. Prenez votre vie en main, c'est ça qu'il dit. Le convertissez-vous, c'est quelque chose comme ça. Prenez votre vie en main. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que Jésus, il se mêle à cette foule. Et moi, j'aime bien regarder Jésus qui se mêle à la foule des gens qui viennent voir le Baptiste. Il n'y a pas une séance spéciale de baptême pour Jésus. C'est pas un baptême privé. Il est au milieu des gens et comme les autres, il plonge. Et lui, quand il plonge dans l'eau du Jourdain, alors là, il se passe quelque chose pour lui qui est bouleversant. C'est que il prend conscience comme peut-être personne d'autre avant lui. Il prend conscience que sa vie, elle, comme le fleuve du Jourdain, sa vie, elle a une source, quoi. Un fleuve, ça n'existe pas sans une source. Et bien, il prend conscience que sa vie, elle n'existe pas sans une source. Il prend conscience qu'il n'existe que parce qu'un autre veut qu'il existe. Il prend conscience que Dieu, c'est son fondement, c'est le principe même de sa vie. Il est l'âme de sa vie, quoi. Il est la profondeur de son existence. Il comprend que Dieu est Père et donc qu'il est Fils. Il voit aussi qu'il n'est pas tout seul et il s'aperçoit qu'autour de lui, tous ces gens qui sont là, eh bien, il y a une communion de destinée. S'il est fils, alors il est aussi frère. Et j'ai l'impression que toute la vie de Jésus va être une espèce de déclinaison de ces deux mots-là, être fils et être frère. Être humain, c'est être fils ou être fille, et être frère ou être sœur. Être fils, c'est être frère, être fille ou être sœur. Et alors c'est tellement une nouvelle bouleversante pour lui qu'il sent bien qu'il ne peut pas ne pas dire ça à d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là que très vite il va se mettre en route. Il aurait pu retourner à Jérusalem, mais il ne retourne pas à Jérusalem. Il retourne, il s'en va vers le nord, vers la source. Symboliquement, il y a quelque chose de très beau. Il va longer le Jourdain, remonter à la source. Il aurait pu s'arrêter à Tibériade, il ne s'arrête pas à Tibériade. Il va s'arrêter dans un petit village, Capharnaüm. Ce petit village, c'est un village tout simple. C'est un village où il y a quelques pêcheurs, il y a des paysans, il y a une garnison romaine. Et puis surtout, Capharnaüm, c'est un petit village qui est traversé par les routes marchandes. Ah, ça c'est très intéressant pour nous. Il y a les routes marchandes qui vont de l'Égypte au Liban et qui vont de la Méditerranée jusqu'à la Syrie. Et on dirait que d'emblée, Jésus se situe au carrefour de la vie. Il aime les carrefours. Alors pour nous qui essayons d'être des disciples de Jésus, c'est un signe fort, quoi. On n'a pas besoin de se réfugier dans des fortins. On n'a pas besoin de se sentir agressé par ce monde. On n'a pas à avoir peur du monde. Être disciple de Jésus, c'est être au carrefour de la vie. Là où ça rit, là où ça pleure, là où ça crie, c'est là qu'est notre place. Alors il va pas rester seul, il va appeler des disciples, il va les former, ses disciples, mais c'est aussi ses disciples qui vont le former. Et c'est très beau cette petite communauté qu'on voit dans l'évangile. C'est quelques hommes et c'est quelques... Bon, il y avait aussi des femmes, on ne dit pas qu'il appelle des femmes. Ben, c'est à l'époque, quand on écrit les évangiles, on ne dit pas des choses comme ça. C'est pas dans la culture. N'empêche qu'on dit dans l'évangile qu'il y a quand même des... Il appelle des hommes, mais il y a des femmes qui le suivaient. Madeleine d'Elbrel, elle disait, c'est toujours pareil. Les hommes, ils sont en mission et les femmes, elles font les commissions. Bon, ça a un peu changé. Enfin, un peu. Si. Ça pourrait changer encore un peu plus. Voilà. En tout cas, voilà, il y a cette petite communauté d'hommes et de femmes qui se crée et il va les former, il va les ouvrir à quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre Dieu et de vivre leur humanité. Et aussi, eux vont lui révéler qui il est. Vous savez, il y a ce passage magnifique dans l'Évangile où c'est à Césarée de Philippe, donc on est un peu au-dessus de Tibériade, là, on est presque à la frontière du Liban. Il y a cette belle rencontre, cette belle question que Jésus pose à ses disciples, Dites-moi, les amis, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent, bah, y en a qui disent que t'es un prophète, y en a qui disent que t'es Élie, y en a qui disent que t'es Jean-Baptiste. Il dit, mais pour vous, qui suis-je? Et alors, il se passe quelque chose dans l'évangile qui n'est pas écrit dans l'évangile, mais j'ai l'impression qu'ils doivent se regarder, parce qu'ils ne s'attendent pas à une question comme celle-là. Ils se regardent. Et alors, il y a Pierre qui dit, bah, tu es le Christ. Il y a deux manières de lire le texte. Hein. On peut penser, une première manière un peu habituelle, c'est de penser que Jésus, il avait déjà la réponse. Tu es le Christ. Alors, vous avez deviné? Alors, ça va? Vous avez... C'est bon là? Comme s'il leur faisait passer un examen de catéchisme, quoi. Ça, c'est une première manière de lire le texte. Une deuxième manière de lire le texte, moi je suis plus touché par celle-là, c'est que Jésus, il a besoin de s'entendre dire par ses compagnons de route que oui, il y a quelque chose de Christ chez lui, quoi. Et donc, il les forme, mais il lui permet de devenir ce qu'il est aussi. Et j'ai l'impression que c'est une question qui est importante, ça, pour devenir humain, laisser les autres nous révéler qui nous sommes. Ça, c'est tellement important. Apprendre des autres qui nous sommes. Parce qu'on devient un peu à la fois. Alors on le voit avec ses disciples, hein, ben à longueur d'évangile, on voit qu'il a une oreille attentive, bienveillante. Quand les gens viennent à lui, ils ont le sentiment d'être compris, d'être entendus. Les gens se livrent sans retenue. Même les gens qu'ils connaissent à peine, ils n'ont pas peur de lui parler de ce qui les fait, de ce qui les touche. Quand ça va plus, on vient le voir. On lui raconte ses secrets, enfin, les espoirs, les joies. Parce qu'ils savent, les gens qui ne jugent pas. Ils savent ça. Ils l'écoutent et ils ne jugent pas. Être humain, il y a peut-être quelque chose de ça. Hein. Ce qui est très beau aussi, c'est que lui, il permet aux gens de voir leur vie en face, quoi. Il permet aux gens d'accéder à leur vérité. Et ça, les gens attendent ça. On sent qu'il y a chez lui un goût de vivre, une passion pour la vie. Alors, je vous disais, il y a quatre postures qu'il tient continuellement et qui font de lui quelqu'un de profondément humain. Et ces quatre postures, elles peuvent nous rendre plus humains. La première posture de Jésus, elle est constante dans l'Évangile, c'est que quand il est là, il est là. C'est bête à dire, hein. C'est bête à dire. Nous, quand on est là, on n'est pas toujours là, hein. Enfin, moi, en tout cas, quand je suis là, je suis pas toujours là. Et on sait bien, quelquefois, on est ici, mais on est encore ailleurs. Ou bien, on est ici, on est déjà à penser à ce qu'on fera demain. Bon, et être là, c'est pas toujours simple, quoi. Lui, quand il est là, il est là. Et on voit ça à longueur d'évangile. Vous pouvez regarder tous les passages de l'évangile, vous allez voir. Un jour, il est à Jéricho. Avec ses disciples. Il entre à Jéricho. À la porte de Jéricho, il y a un homme qui s'appelle Bartimée. C'est un aveugle de naissance. On le rencontre, lui, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. J'irai voir si vous voulez. Bartimée, il est aveugle. Il ne peut pas travailler. Alors, il mendie. Il n'est pas sourd. Hein. Il est aveugle. Et donc, il entend un moment que Jésus passe. Et alors il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les disciples disent, tais-toi, tais-toi, on n'a pas que ça à faire. On a une réunion à Jéricho. On a une réunion, on n'a pas le temps. Le seul qui entend cet homme, c'est Jésus. Et qui dit à ses disciples, appelez-le. Alors on voit dans l'évangile. Parce qu'il faut lire l'évangile avec les yeux fermés aussi. Hein. Je ne l'ai pas dit ça. C'est avec les yeux fermés qu'on lit. Quand on lit les yeux fermés, on entend. C'est sûr, hein, c'est très important de lire les yeux fermés. Et donc, aie pitié de moi, appelez-le. Alors, on voit les disciples qui s'en vont chercher confiance, lève-toi, il t'appelle. Et on dit dans l'évangile que Bartimée, il bondit. Et alors, il y a cette scène magnifique à contempler. Il y a ces deux hommes qui sont en face l'un de l'autre. Il y a Bartimée, l'aveugle, et en face de lui, il y a Jésus, le clairvoyant. Et autour, il y a des gens qui rouspètent. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Quand il est là, il est là. Une autre fois, il est invité à un repas chez des publicains. On trouve ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Il est invité chez un publicain. C'est une affaire d'homme. Hein. On est entre hommes. Bon, il y a une femme qui entrait par la porte de derrière. Cette femme, elle est rentrée avec un flacon de parfum de grand prix. Et voilà que cette femme, elle va verser sur les pieds de Jésus ce parfum. Et elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et dans la salle, les gens se regardent en disant, c'est toi qui l'as invité? Non, c'est toi, non, c'est pas toi. C'est toi qui l'as invité? Non. Et ils se disent, elle aurait pu dépenser cet argent autrement, le donner aux pauvres. Et lui, il la laisse faire. Et il est là pour elle. Il est là pour elle. Il la laisse faire. Il accueille le côté un peu excessif de cette femme. Bon, c'est quand même un peu excessif, hein. Il est là pour elle, quoi. Il est là. Quand il est là, il est là. Et autour, tout le monde rouspète. Encore une fois, dans l'Évangile, tout le monde rouspète tout le temps. Pourtant, ça n'a pas été écrit par des Français. Hein, mais c'est vrai, ça rouspète tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Une autre fois, il passe en Samarie. Ça montre aussi cette espèce de capacité d'être là. Il passe en Samarie. On ne passe pas en Samarie quand on est juif. On n'a rien à faire là. Quand on veut aller à Jérusalem, on part par le Jourdain ou on part par la Méditerranée, mais on ne traverse pas la Samarie parce que entre juifs et samaritains, on ne se cause pas, quoi. Bon, toujours est-il qu'ils passent en Samarie, ils arrivent à Naplouse, enfin l'actuelle Naplouse, là où il y a le puits de Jacob. Ben Jésus, c'est midi, il s'assied, il pique un petit roupillon parce que c'est la sieste, quoi, c'est midi, hein, c'est quand même, il fait chaud. Et puis les disciples, ils s'en vont au village pour chercher de quoi manger, c'est ce qui est dit dans l'évangile. Et dans ce village, il y a une femme. C'est une femme un peu étrange quand même, hein. Elle est sympathique, cette femme. Elle a eu 5 maris. Moi, vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour cette femme. C'est une femme qui cherche la vie, quoi. Elle cherche le bonheur. Elle l'a pas trouvé. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Et elle a vu passer ce groupe d'étrangers. Puis elle voit qu'il y en a un qui est comme ça, qui s'est assis sur le bord du puits. Elle l'a vu à la fenêtre de sa maison. Bah, elle va aller voir. On sait jamais. Mais non, mais. Enfin, c'est peut-être pas très juste que je raconte, mais en tout cas, moi, il se trouve qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce texte-là. Cette femme, elle n'a rien à faire là, quoi. Elle n'a rien à faire là. N'empêche qu'elle va sortir de sa maison à midi. On va pas chercher de l'eau à midi, il hein, faut pas nous la faire, celle-là. Elle va chercher de l'eau à midi, elle va prendre sa cruche, elle va aller tourner autour du puits. Et lui, il va la voir, cette femme. Et en principe, un homme, ça ne doit pas parler à une femme, et encore moins un juif à une samaritaine. Ben lui, il va avoir l'audace de franchir la frontière, quoi, de sauter par-dessus l'interdit. Il va dire à cette femme, donne-moi à boire. Elle va être toute retournée, cette femme. Et ce qui est magnifique, après un quiproquo, d'abord ça va commencer comme un quiproquo, mais finalement, il va amener cette femme à sa vérité. Et ça, c'est boule. Et c'est très beau de les regarder, ces deux-là, quoi, au bord du puits. Les garçons, ils sont encore aux courses, quoi. Ils sont là tous les deux, au bord du puits. Ils sont magnifiques, ils sont là tous les deux. Et lui, il va pas avoir peur de parler à cette femme. Il va l'aider, cette femme, à dire cette soif profonde qu'il y a en elle. Elle n'a pas de mari, quoi. Elle n'a pas d'existence propre. Il va aider cette femme à reconnaître ce qu'elle est et qu'elle se cachait peut-être. Quand il est là, il est là. Quand il est là, il est là. Une autre fois, on voit ça dans l'évangile aussi. Vous savez, ils sont sur le chemin de Jérusalem, là. Les disciples, ils savent bien que ça va mal se terminer. Ils sentent bien que Jésus, s'il continue, ils sentent bien qu'il y a de l'animosité contre lui. Et les disciples, ils sont un peu troublés. Ils se disent, mais est-ce qu'on a bien fait de marcher avec lui? Et Jésus, on dit dans l'évangile qu'il connaissait le cœur de l'homme. Alors il en prend 3 à part, Pierre, Jacques et Jean, et puis il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il n'y a pas de haute montagne là-bas. Il n'y a pas de haute montagne là. Il les emmène à l'écart. Et qu'est-ce qui se passe? Il va les prendre à l'écart et il va être là, pour eux. Rien que pour eux. Et parce qu'il est là, rien que pour eux, alors ils vont saisir que la vérité de son être, ils vont comprendre qui il est, quoi. Et ils vont se dire, mais oui, on peut le suivre, on peut lui faire confiance. Même qu'ils vont voir Moïse et Élie, ils comprennent que oui, vraiment, cet homme, il vient de loin, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et à partir de là, ils vont pouvoir continuer. Parce qu'il est là dans la présence pure, comme ça ils ont saisi quelque chose de son être. Et quelque chose de ce qu'il pouvait devenir aussi. Donc quand il est là, il est là. Et ça le rend profondément humain. Et tout le temps dans l'évangile, on voit ça. On voit ça. Il est là, ça le rend humain, et ça rend les autres humains. Eh bien, moi, je pense que si nous voulons devenir humains, il y a quelque chose à entendre de ce côté-là, quoi. Apprendre à habiter le temps présent, à ne pas toujours être scotché au passé, aux heures glorieuses de notre vie ou de notre église, quelquefois aussi. Ne pas nous souvenir des heures glorieuses de notre. Bon, mais apprendre à habiter l'aujourd'hui. C'est ici et maintenant que ça se joue. Le mot aujourd'hui, il apparaît tellement souvent dans l'évangile. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Madeleine Delbrel, elle dit, mon Dieu, si vous êtes partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs? On n'est pas toujours, on n'est pas dans nos pompes, comme on dit un peu trivialement. Hein. Combien de fois le matin on dit à quelqu'un, alors comment ça va? Et on n'écoute même pas la réponse. On n'est même pas là. Non? Rassurez-moi. Rassurez-moi quand même. Hein. Être là, quoi. Bon. Et je trouve que il y a quelque chose de très beau qui se passe en ce moment dans notre monde. C'est l'attrait des gens pour la méditation. Et je trouve que c'est très beau. Alors quelquefois, il y a des chrétiens qui disent oui, mais attention, c'est pas la prière, gna gna gna. Bon, ça suffit, quoi. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, dans un monde où on court toujours, dans un monde qui va vite, dans un monde qui est troublé, prendre le temps avec d'autres de s'asseoir. De poser les deux pieds par terre et de prendre conscience que nos pieds, ils sont, qu'on pose nos pieds sur la terre et de prendre conscience qu'il y a un souffle qui nous habite. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est une première porte d'humanité, ça. Apprendre à être là. Il y a quelques années à Lille une conférence organisée par Christophe André, Mathieu Ricard et le troisième, Alexandre Jolien. Trois compagnons en quête de bonheur, c'est ça? Quelque chose comme ça, le titre de leur livre de l'époque. Et alors, moi je m'étais dit, bon, je vais aller à cette conférence, ça se passait au Zénith, c'est la plus grande salle de Lille, 4 500 personnes, il fallait payer 25 euros. Bon, c'était pour un orphelinat, bon, j'ai pas d'inquiétude là-dessus, mais voilà, 4 500 personnes qui étaient là, quoi. Et ça avait été mal organisé, vraiment. On devait recevoir par internet nos billets, on n'a jamais rien reçu. Et puis le soir, c'était à 7h30 la conférence. À 6h, on était 4 500 devant la salle. Les portes étaient fermées, le bazar le plus complet, mais les gens rouspétaient pas. C'était déjà rare. À 7h30, les portes se sont ouvertes et on nous a dit, bah, écoutez, on est mal organisé, entrez, prenez une place. Alors qu'on a 4 500 personnes qui sont entrées et on s'est placé. Et puis quand tout le monde était placé, alors on a vu arriver sur la scène un petit monsieur orange. C'était Mathieu Ricard qui dit, voilà, excusez-nous, on s'est mal organisé. Ah oui, on peut plus dire. Mais je vais vous parler du bonheur. Et alors il s'est mis à nous parler du bonheur. Et ça sonnait comme, ça avait un petit goût d'évangile, ce qu'il racontait. Et après il a dit, bah, écoutez maintenant, il a parlé pendant 10 minutes. Après il a dit, bah, maintenant on va faire une expérience, vous allez bien vous asseoir. Là on a vu 4 500 personnes qui se recalaient un peu sur leur chaise. Mettez bien vos pieds par terre, ouvrez les mains, fermez les yeux et respirez. Et on est resté comme ça. Pendant 15 minutes. Et puis après, on avait un autre monsieur arrivé, c'était Christophe André, qui nous a parlé du bonheur aussi. Ça sentait bien l'évangile aussi. Et puis il nous a dit, ben maintenant, vous allez fermer les yeux, vous allez poser vos pieds par terre, vous allez ouvrir les mains. Et on s'est tenu comme ça pendant 15 minutes. 25 euros. Mais je me dis, mais alors c'est beau parce que dans cette assemblée de 4 500 personnes, moi j'ai revu un tas de gens. Que je connaissais, des gens que j'avais vus dans des paroisses, des jeunes que j'avais connus quand j'étais aumônier des étudiants et tout ça, plein de gens que je connaissais et qui avaient déserté pour la plupart, mais qui retrouvaient là, dans cet être-là, comme une connexion. Je me dis, il faut qu'on fasse très attention à ça dans notre église et qu'on apprenne aux gens à être là. Qu'on apprenne à être là. Et ça, les moines, vous avez un art de ça, de vous apprendre ça. Vraiment? Si, c'est vrai. Apprendre à être là. Donc, apprendre à ne plus vouloir tout maîtriser, apprendre à renoncer, à toujours courir, à vouloir toujours aller de l'avant, être là. Ça, c'est une première posture forte. Mais je vois que le temps passe. Hein, oh là là. Quand vous en avez assez, vous commencez à bâiller. Ça sera notre code. Hein. Deuxième posture constante de Jésus, c'est qu'il écoute. Il écoute Jésus. On a quelquefois l'impression, moi j'ai longtemps pensé que Jésus c'était un bavard. C'est pas un bavard Jésus, c'est quelqu'un qui donne la parole. Et ça le rend profondément humain. Quand il est sur le chemin d'Emmaüs, là il y a ses Cléophas et son compagnon qui marchent avec le visage triste. Il les rejoint et il commence pas par leur dire attention, regardez, c'est moi. Non, il dit de quoi vous parlez en marchant? C'est quoi? C'est quoi? De quoi vous marchez? De quoi vous parlez? Et il leur donne la parole. Une autre fois, c'est un jeune homme riche, comme on dit, qui vient vers lui. Il arrive essoufflé, ce garçon. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui donne la parole. Qu'est-ce que tu as déjà fait, mon gars? Il commence par donner la parole. Une autre fois, il est sur le chemin de Jérusalem. Les disciples, ils sont en train de parler. Jacques et Jean. Sacré numéro, ceux-là, les fils du tonnerre, la Boanerges, les fils du tonnerre. Ils étaient sur la route de Jérusalem. Et eux, leur souci premier, c'était de savoir qui aurait une bonne place. Et ils ont même demandé à leur mère d'aller voir Jésus. Maman, maman, tu pourrais aller demander une bonne place pour nous? Jésus dit, mais enfin, de quoi vous parlez là? Il donne la parole. Ça, c'est magnifique. Et ça le rend profondément humain, ça. Profondément humain. Et j'ai l'impression que tout ce que dit Jésus, il ne le sort pas d'un espèce de catéchisme intérieur. Moi, j'ai l'impression que Jésus, c'est d'abord quelqu'un qui est à l'écoute de la vie des hommes et des femmes qu'il rencontre. Et ce qu'il entend de la vie des hommes et des femmes qu'il écoute, il porte ça au fond de lui. Et ça vient croiser la source de vie qu'il y a en lui. Alors il peut redire des choses. Mais il parle toujours à partir de ce que les gens lui ont dit. Et ça le rend profondément humain. Et ça rendrait notre Église aussi beaucoup plus humaine. Si nous apprenions à d'abord donner la parole aux gens avant de faire des grands discours. On n'est vraiment humain que si on donne la parole aux gens. Ça, c'est une deuxième posture. Une troisième posture très belle chez lui, c'est qu'il y a quelque chose de simple chez lui, de pauvre, on va dire. Il prend des risques, hein. Quand il appelle des disciples à le suivre, il ne sait pas s'ils vont répondre. Et puis quand il les appelle, le casting n'est quand même pas fameux, fameux, quoi. Thomas, Pierre, Jacques et Jean, ce n'est pas toujours des lumières, quoi. Mais il les appelle et il fait confiance. Et ça, c'est magnifique parce que il est comme désapproprié. Il n'a pas de projet pour les gens. Il laisse l'autre vivre. Et ça, c'est magnifique. Et puis, cette pauvreté, on la voit, elle culmine dans ce texte qu'on va écouter ben déjà ce dimanche avec le récit de la Passion qu'on écoute le dimanche des Rameaux, et puis le récit de l'évangile de la Passion selon saint Jean qu'on écoute le vendredi saint. Il y a quelque chose de magnifique dans ce texte-là, c'est qu'on voit que Jésus, il est dépouillé, il se défend pas, il se laisse faire, quoi. Et puis c'est tout le temps comme ça, quand il envoie des disciples deux par deux au-devant de lui, il leur dit, mais quand vous partez, les amis, partez comme des pauvres, quoi. Partez pas avec deux tuniques, c'est pas la peine. Partez pas avec deux bâtons, un bâton ça suffit. Partez même pas avec votre repas, mangez ce qu'on vous donnera. Et puis si on ne vous accueille pas, vous inquiétez pas. Hein, ne vous inquiétez pas, ne vous imposez pas. On ne vous accueille pas, ben continuez votre chemin. Et puis enlevez même la poussière qu'il y a sur vos chaussures pour ne pas emmener quelque chose qu'on ne vous aurait pas donné. Il est pauvre et il invite à être pauvre. Et ça le rend profondément humain. Parce que à partir de là, dans cette pauvreté de Jésus, dans cette simplicité d'être, il laisse transparaître en lui la clarté de la source qui l'anime, quoi. Et ça le rend humain parce qu'on n'a pas peur de lui parler. Les gens qui savent, les gens blindés, les gens qui savent tout, les sachants Dieu, on a un peu peur de leur parler. Mais lui, on peut l'aborder. Et on sait qu'on peut dire ce qu'on a sur le cœur. Et qu'il va d'abord nous écouter. Ça le rend profondément humain, ça. En tout cas, moi, c'est. Et ça, je me dis, mais c'est un signe pour nous, ça. Apprendre à être là, apprendre à donner la parole, à écouter la parole aussi. Et puis, avancer comme des pauvres, avancer désarmé. Mais bon sang, il faut qu'on se désarme un peu. Et notre Église, il faut qu'elle se désarme aussi un peu. Avancer à main nue. Alors on ne fait pas peur aux gens. Et puis il y a une quatrième posture qui est magnifique, c'est que il ne mange pas les autres. Il ne dévore pas. Il n'utilise pas les gens. Et ça, on sait que c'est un danger pour nous. Hein. C'est d'utiliser les gens, d'en faire nos choses, quoi. Et il y a un texte qui moi, me bouleverse depuis des années. Ça se passe juste après le. C'est dans l'évangile de Saint Jean, juste après la multiplication des pains. Vous savez, il y a 5 000 personnes qui étaient venues là-bas. Il n'y avait pas grand-chose à manger. Les disciples étaient inquiets. Ils se disaient, bon, on ne va jamais s'en sortir. Bon, il y a 5 pains, 2 poissons, Jésus. Comment ça s'est passé? J'en sais rien. Bon. Mais toujours est-il que tout le monde a à manger. Et à la fin, Jésus dit, alors je traduis un peu hein, comme d'habitude, mais Jésus dit, alors, c'était bon? Et les gens disent, oui, c'était bon. Et ben, je vais vous dire quelque chose d'autre. Ce pain-là, ceux qui en mangent, ils vont un jour mourir, mais moi, je connais un pain, ceux qui mangent de ce pain-là, ils mourront jamais. Et les gens disent, ah bon? Ah bon? Il dit, oui, je connais le pain de vie. Oh, ben donne-nous de ce pain-là. Et il dit, je suis le pain de vie. Et à partir de ce moment-là, dit Saint Jean, tout le monde s'en va. Et il ne reste plus à côté de lui que les 12 disciples. Et il faut imaginer, hein, il faut imaginer dans leur tête et dans leur cœur ce qui se passe à ce moment-là. Parce que ils étaient fiers, les gaillards. Hein. Ils étaient fiers, les gaillards. Parce qu'ils avaient. C'est eux qui avaient été distribués le pain. Et il y avait une fierté quand même. Hein. On le connaît, hein. On fait partie de sa bande. Voilà de sa part, c'est lui qui vous donne ça. Les gens, ils étaient fiers comme ça. Et parce que en allant servir les autres, bon, il y avait quelque chose d'une un peu d'une jouissance intérieure, quoi. Je fais partie de la garde rapprochée, quoi. Ils étaient fiers de ça. Et là, ils se retrouvent comme des clampins. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus que eux et Jésus. Et quand ils voient que tout le monde est parti, il doit se passer en eux ce qui se passe quelquefois en nous, en tout cas en moi, quand je vois des gens qui s'en vont. Moi, j'ai la hantise des gens qui s'en vont. Je suis hanté par les gens qui s'en vont. On en connaît, hein, des gens qui s'en vont pour 1 000 raisons de nos communautés. Alors on dit, bon, c'est le Covid, hein. L'abandon, le Covid. Ils vont revenir, hein. Mais on les attend, ça fait des années qu'on les attend. Les chaises sont vides. Et les disciples, ils doivent se dire, quand ils voient toutes ces. Enfin, je ne vais pas dire les chaises vides, mais quand ils voient qu'il n'y a plus personne, ils doivent se dire, mais bon sang, tous ces gens qui sont partis, ils ont peut-être eu raison de partir. Parce qu'il dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, oh. Peut-être qu'il va trop loin. Ça vous arrive jamais à vous d'avoir envie de partir? Rassurez-moi. Non, mais vraiment, hein, moi je suis. J'en connais, vous pourriez en citer aussi, je suis sûr, des hommes, des femmes avec qui vous avez fait des bouts de chemin, des gens qui ont été engagés dans nos affaires d'église, là. Moi, j'en connais des dizaines et des dizaines. On a vécu des choses super, on a travaillé ensemble, on a mené des projets pas possibles. Et puis d'un seul coup, à cause de la vie, à cause des scandales, à cause de blessures, à cause de 1 000 raisons, ils s'en vont, quoi. Et moi, je me retrouve là comme un clampin. Et quelquefois, je me dis, mais peut-être qu'ils ont eu raison de partir. Rassurez-moi. Et alors, ce qui est magnifique dans l'évangile, c'est que Jésus, il sent bien que les disciples, ils flanchent à ce moment-là. Et au lieu de, vous savez, de les chauffer, au lieu de leur dire, vous savez, vraiment, vous avez vu tous ces gens qui sont partis, c'est vraiment des malhonnêtes. Ils sont partis sans même dire merci. Ils n'ont même pas ramassé les papiers. Ils n'ont pas empilé les chaises. Il nous laisse comme ça, il s'en va. Mais vous, heureusement que vous êtes là, hein, parce que vous êtes super. Hein. Qu'est-ce que je suis content de vous avoir. Vous êtes vraiment des gens extra. Vous êtes des gens formidables. Au lieu de les chauffer comme ça, au lieu de leur faire des promesses en disant, vous savez, demain, ils sont partis, c'est pas grave. Demain, on va faire autre chose. Ce sera encore plus fort demain. Demain, on va multiplier les oranges. Au lieu de leur faire des trucs comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit une parole bouleversante. Moi, je ne me remets pas de cette parole. Il leur dit, vous voulez partir vous aussi? Et il leur ouvre la porte. Pour moi, il n'y a pas de parole plus bouleversante dans l'évangile que celle-là. Vous voulez partir vous aussi? Et les garçons, quand ils entendent ça, ils sont sidérés par cette parole de Jésus. Et il se passe quelque chose qui n'est pas écrit dans l'évangile. Mais si vous fermez les yeux, vous allez voir ce qui se passe. Ils entendent cette parole de Jésus, vous voulez partir vous aussi? Ils sont ramenés à leur liberté. Alors ils vont se regarder, ils vont aller chercher dans le regard des autres de quoi nourrir une réponse. Et alors Pierre, il va dire une réponse, il va balbutier une réponse. Et j'ai l'impression que la parole de Pierre, c'est pas une parole de premier de classe, quoi. C'est pas une parole, vous savez, assurée. Mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Non, c'est pas ça qu'il dit Pierre. Pierre, il a regardé ses compagnons de route-là. Il est allé chercher une réponse dans leurs yeux. Et il leur dit, mais. Et il dit à Jésus, mais. À qui on irait? Toi, tu as des paroles de vie. Et il reste. Et je trouve que c'est magnifique parce que j'ai l'impression que c'est là qu'elle naît l'Église. Elle naît dans cette humanité-là d'un Seigneur qui ne veut pas manger ses disciples, mais qui veut qu'ils existent librement. Et l'Église, elle naît quand ces hommes se regardent les uns les autres. Et j'ai l'impression que c'est là qu'elle naît l'Église. Elle ne naît pas au jour de la Pentecôte, ou peut-être que c'est déjà Pentecôte ce jour-là. L'Église, elle naît toujours quand des hommes et des femmes croisent leurs regards. L'Église, elle naît toujours quand des hommes et des femmes croisent leurs paroles. L'Église, elle naît toujours quand des hommes ou des femmes balbutient ensemble une réponse à ce Seigneur qui dit, mais vous voulez partir? Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie. J'ai l'impression que dans cette attitude de Jésus, il y a quelque chose de bouleversant pour nous, parce que ça le rend profondément humain, ce Seigneur. Être humain, c'est pas manger l'autre. Être humain, c'est élever l'autre. Enfin, ceux qui sont parents parmi vous, ils savent bien. Élever un enfant, c'est pas refermer la main sur lui, c'est pas le capter. Élever un enfant, il y a quelque chose de magnifique dans l'expression élever un enfant. C'est le prendre et le conduire à lui-même, quoi. Deviens ce que tu es. Non pas deviens ce que je veux, mais deviens qui tu es, quoi. Eh bien, j'ai l'impression que dans cette posture-là de Jésus, il y a quelque chose d'infiniment humain et d'infiniment humanisant, parce qu'il va permettre à ses disciples ce jour-là d'exister fortement. Alors, voilà quatre postures. Être là, vraiment, être là, dans l'aujourd'hui de la vie. Habiter même les déroutes, ne pas fuir les déroutes, être là. Ne pas s'anesthésier avec des leçons apprises, être là. Être à l'écoute de la vie, parce que c'est dans la vie que Dieu se dit. C'est dans la vie que Dieu se dit. Avancer pauvrement, simplement, sans fanfaronner. Voilà une troisième posture qui rend humain. Et une quatrième posture, c'est que on est vraiment humain que si on sert l'autre et si on renonce à se servir de lui. Dieu sait que ces quatre postures, elles sont un chemin pour notre Église, bien sûr. Et ces quatre postures, elles sont aussi un chemin pour nous, personnellement. Et alors, ce qui est magnifique, vous allez dire, mais alors tout ça, c'est quand même très horizontal, tout ce que tu racontes. Ben non, c'est pas horizontal du tout, parce que il y a quelque chose de très beau dans cette profondeur d'humanité que Jésus témoigne, c'est qu'il laisse transparaître dans cette profonde humanité quelque chose d'un Dieu qui est source de l'humanité. Mais mes amis, ils m'ont offert il y a quelque temps un livre comme ça c'est parce que. J'aime bien raconter des petites histoires, j'aime bien regarder la vie, j'aime bien souligner ce que je vois de la vie des gens et tout ça. Et quelquefois je les bassine un peu avec ça. Et puis quelquefois on dit notre vie, ben c'est comme un roman. Vous n'avez jamais dit ça? Ben, tout ce qui m'arrive, je pourrais écrire un roman. Alors ils m'ont un jour offert un roman comme ça, un livre. Et ils m'ont dit, ben, ouvre un peu le livre. Parce que ce livre-là, c'est le livre de notre vie, hein. C'est nos joies, c'est nos soucis, nos inquiétudes, c'est la vie du monde. Notre vie, c'est ça, c'est un recueil. Et ils me disent, ouvre le livre. Et alors, quand on ouvre le livre, alors il y a de la lumière dedans. Et bien, moi, je crois profondément que la proposition de Jésus, elle est de cet ordre-là. Il nous fait contempler l'aujourd'hui de notre vie. Il dit, c'est pas la peine de fuir. Vis là où la vie te mène, mais dans la profondeur de tes rencontres, dans la profondeur des événements, il y a une lumière, il y a une vie qui se cache dans la vie. Je crois que la proposition de Jésus, elle est de cet ordre-là. Et ça nous rend sacrément humains. Voilà ce que je voulais vous partager, c'est ça. J'étais un peu long, excusez-moi.
Jésus de Nazareth, ce vivant qui nous rend si humains, vous venez de suivre une conférence du père Raphaël Buise, prêtre du diocèse de Lille, membre de la fraternité diocésaine des Parvis, conférence organisée par les paroisses Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Marie du Hameau de Pau à l'abbaye de Belloc Habitat et Humanisme le 9 avril 2025.